Catherine, le matin.
Que l'amour ici se lève. Que l'amour ici se lève.
Bon matin, Jonathan.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va bien toi-même?
Oui, ça va bien.
Bonne et heureuse année 2018, remplie de sport.
Oui, ben vous de même et à tous les auditeurs.
Et un classique à chaque année, ça commence avec le championnat mondial. Serge en a parlé dans ses sports tantôt. Canada qui va affronter la République tchèque en match demi-finale. Mais on peut dire, Jonathan, que le match quart de finale contre la Suisse, ben ça n'a pas nécessairement été un grand classique, une victoire facile pour le Canada 8-2.
Ben c'est sûr que quand tu regardes les matchs hors concours que le Canada avait disputé avant le tournoi, bon, la Suisse aussi, ben c'est sûr et certain que quand tu bats la Suisse 8-1 et que tu bats la République tchèque 8-0, là, c'est sûr et certain que tu dis que tu abordes le tournoi de façon optimiste, sauf que la République tchèque, dans le tournoi, a quand même très bien joué. Donc, ils ont battu la Russie lors du premier match, on s'en rappelle, et hier, ils ont sorti la Finlande, qui est considérée comme une autre puissance dans le championnat mondial junior à chaque année. Les jeunes Finlandais arrivent toujours avec une très grosse équipe, arrivent toujours très près. Donc, je pense que la République tchèque, là, cette année, s'est donné comme objectif, là, si on peut dire, de se causer peut-être une certaine surprise. C'est pas facile, l'autre bord, pour les États-Unis qui, eux, vont affronter la Russie, mais moi, je suis convaincu là, que le Canada va pouvoir passer au travers de la République tchèque et se retrouver encore une fois en finale du championnat mondial. Là.
Est-ce que ce sera une reprise de la finale Canada-États-Unis de l'année dernière?
Oui, je pense que oui. Là. C'est sûr que la Russie, c'est quand même une équipe qui est très puissante, mais je pense que les Américains sont chez eux, sont déterminés à vouloir peut-être offrir le titre à la maison. Donc, c'est sûr et certain que quand tu as ça comme motivation, l'adrénaline fait en sorte que les gars vont tout donner sur la patinoire. On sait que les Américains, l'année passée, sont venus gagner en sol canadien. Donc, c'est sûr et certain que le Canada a toujours ça derrière la tête. Maintenant que c'est aux États-Unis. Et là, bien, j'espère juste que chez le Canada, on sera assez intelligent là, pour se rendre en finale et justement de doser nos énergies pour être capable de se rendre jusqu'au bout. Là.
Bien, on va se croiser les doigts pour avoir Canada-États-Unis en finale parce qu'on se rappellera de ce match. C'est devenu un classique, je pense, l'année dernière, la finale entre le Canada et les États-Unis. Malheureusement, ça s'était terminé en tir de barrage. Moi, j'ai toujours trouvé ça inconcevable qu'un match de cette importance-là, qu'on finisse ça en tir de barrage. Moi, dans mon idéal, ça prendra un but en prolongation. Malheureusement, c'est pas ça les règlements de la Fédération internationale de hockey sur glace. Alors, j'ai envie de te demander, Jonathan, Canadien n'avait pas un match au programme hier soir?
Ben, il était supposé, mais je pense que les gars ne se sont pas présentés malheureusement. Honnêtement, c'est sûr et certain que quand tu regardes la prestation qu'ils ont faite contre San Jose hier, ça laisse rien présager de bon pour le prochain qui est contre Tampa Bay. On s'entend que c'est pas des clients faciles. Là. Moi, c'est sûr et certain que là, je commence à me poser la question. Parce que là, les fans commencent à déserter le Centre Bell. Les fans commencent
à huer. Ceux qui sont là et crient après leur équipe.
Puis moi, j'ai de la misère à comprendre que Jeff Molson ou la haute direction du Canadien s'entête à vouloir garder les choses comme elles le sont actuellement. Parce qu'on sent pas nécessairement le sentiment d'urgence chez la direction. On semble pas vouloir faire bouger les choses. Dans les discours, Marc Bergevin dit qu'il y a un plan. Moi, je pense qu'il n'y en a plus, là. Puis Jeff Molson dit qu'il y a un plan également, qu'il a confiance en Marc Bergevin. Mais on dirait que c'est du statu quo. On marche un peu sur des œufs. On veut comme pas trop s'aventurer dans quelque chose. Sauf que parce que vous avez 8,5 millions de disponibles sur la masse salariale. Je comprends que si vous aviez 625 000 de disponibles, là, je comprends, la panique un peu s'installerait, mais là, 8,5 millions, essaie de faire quelque chose. Marc Bergevin est payé pour trouver des solutions. Il nous a martelé depuis le début de son mandat qu'il n'est pas capable de faire des échanges, que c'est très difficile d'en faire. Sauf que quand tu regardes Jim Rutherford à Pittsburgh, ou quand tu regardes d'autres directeurs généraux, David Paul à Nashville, eux, c'est drôle, sont capables d'en faire, puis pas Marc Bergevin. Donc, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu donnes pour recevoir, mais je pense que là, on a attendu tellement longtemps, parce qu'on voulait pas donner des gars de notre équipe qui sont essoufflés actuellement, qui ont même plus de valeur aux yeux des autres équipes. Là.
Ce matin, le Canadien est plus près du dernier rang de sa conférence que du dernier rang qui donne accès aux séries. Est-ce que tu crois, Jonathan, que le Canadien va réussir à renverser la vapeur et participer aux séries? Il reste quoi, 44 matchs et 84 matchs la saison? Moi, honnêtement, je pense que ça va être très, très long, ça va être très difficile pour le Canadien.
Non, moi, je pense que le Canadien franchit un point de non-retour, malheureusement. Je verrais pas comment les choses pourraient changer de côté aussi drastiquement. Oui, Carey Price, devant le filet, fait le travail, dans le sens où c'est qui permet quand même à l'équipe de gagner, sauf que je pense pas que le Canadien, du jour au lendemain, va se trouver une identité d'équipe qui va compter beaucoup de buts, une identité d'équipe qui, défensivement, va relancer l'attaque de façon efficace. C'est sûr et certain que quand ton premier défenseur que tu utilises à outrance, ça, je la comprends pas, c'est Joe Morrow. Je sais que Claude Julien l'aimait bien à Boston, mais il y a une raison pourquoi il est parti de Boston. Puis là, ben, il y a une raison pourquoi il l'a amené à Montréal aussi. Puis celle-là, on l'a pas compris. Mais là, Joe Morrow, qui joue quasiment entre 18 et 22 minutes par match, je sais qu'on est à court de défenseurs. Mais à un moment donné, il faut quand même mieux gérer ces effectifs-là. Et souvent, bien, veut pas, quand on manque d'attaque, on essaie d'avoir le soutien de la défensive. Et là, bien, actuellement, on n'a rien de tout ça. Carey Price est laissé à lui-même. Et je soupçonne qu'à l'interne, là, il va y avoir une petite crise qui va éclater. On se rappelle de la petite altercation d'Andrew Shaw, justement, et Joe Morrow, lors du récent voyage dans l'Ouest. Je pense peut-être qu'à l'interne, là, derrière les portes closes, il doit avoir un certain malaise à quelque part. Là.
Et en terminant, Jonathan, c'est un classique quand se termine la saison de la NFL. La journée qui suit les derniers matchs en saison régulière, il y a une vague de congédiements. Puis encore cette année, il y a plusieurs entraîneurs qui vont se chercher un emploi. Là.
Ben, dans la NFL, c'est un classique à chaque année. On dirait que dans la Ligue nationale, on est comme un peu gêné de faire des mouvements de personnel. Dans la NFL, je pense que ce qui est intéressant ou pas, ça dépend si t'es une organisation qui a connu du succès ou non dans les dernières années, c'est que les équipes ont pas peur de prendre des décisions, de dire nous on s'en va dans une autre direction. Peut-être que oui, c'est des décisions qui sont peut-être trop rapides, parce que tu te dis, exemple Jack Del Rio, faisait simplement 3 ans qu'il était à Oakland, avait amené l'équipe l'année passée en série. Ben là, cette année, ils ont pas fait les séries. J'imagine que les attentes étaient assez élevées. Et là, ben, ça a pas fonctionné. Mais quand tu regardes un gars comme Chuck Pagano avec les Colts, il a connu des bonnes années avec Andrew Luck, mais là, ça s'est dégradé cette année. L'année dernière aussi, c'est devenu quand même une équipe qui était sans identité. Et là, bien, c'est sûr et certain que tu regardes du côté des Bears avec John Fox. Moi, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un que je trouvais qui était un peu surévalué, parce qu'il y avait quand même Peyton Manning quand il était avec les Broncos. Donc, il y a eu du changement dans les entraîneurs, dans les équipes de la NFL, mais ça veut pas dire que parce que tu fais le changement, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont changé les entraîneurs dans les dernières années, qui sont encore dans les bas-fonds du classement. Et ça, bien, tu fais simplement que payer des entraîneurs qui n'ont plus de contrat, puis au bout du compte, t'es pas gagnant souvent. Là.
Et les séries débutent en fin de semaine avec les matchs qu'on appelle les wild cards. Tennessee à Kansas City, Atlanta contre les Rams à Los Angeles, Buffalo à Jacksonville et la Caroline en Nouvelle-Orléans. Bref, ça nous annonce des belles semaines de football avec les éliminatoires de la NFL. Merci, Jonathan.
Merci, bonne année, merci.
Bonne année à toi aussi. Alors, notre chroniqueur sportif, Jonathan Paré.